Vous écoutez
RMC. RMC. 15h-18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Salut à tous et bonne semaine sur RMC avec le Super Moscato Show. Nous sommes ensemble pendant 3 heures avec Adrien. Et Adrien, lundi prochain, salut, c'est le retour en direct.
Retour en direct de toute la bande. Donc lundi prochain, lundi 24 août, ce sera la rentrée des classes. On va commencer à appeler tout le monde cette semaine, Pierrot.
Il paraît que Denis est très bronzé.
Denis très bronzé. Vincent pas affûté. Éric Dimeco affûté. Stephen Brun tout rouge. Toute l'équipe du Super Moscato Show sera bien présente.
Eric, il a mangé des brocolis à vapeur tout l'été.
Il y aura peut-être des petits nouveaux dans la bande, dans la famille du Moscato Show. On a des surprises à vous proposer dès lundi, des petites nouveautés pour attaquer cette saison.
Est-ce qu'il y a un nouveau Kikadi ?
Il y aura une sorte de nouveau Kikadi, tout à fait.
Voilà. Donc, nous, au programme, nous avons du Mbappé tout de suite. Est-ce qu'on est injuste? On le critique trop. Mm-hmm. On va faire un très beau débat aussi sur le rugby entre la défaite en quart de finale en 2023 et la défaite en demi-finale en Afrique du Sud en 95. Quelle est la plus traumatisante? Voilà pour le programme de cette première heure. Ensuite, Thomas Ramos, est-il le vrai patron des Bleus? C'est un débat qu'on a fait pendant le tournoi des Six Nations. Et puis, Arteta et Arsenal, se sont-ils trompés en finale de Ligue des Champions avec leur plan de jeu défensif?
C'était un débat très chaud et bon, je ne vous spoile pas ce que va dire Eric Dimeco, mais Eric Dimeco, dans mes souvenirs, Pierrot, nous avait fait croire dans le débat que Arsenal c'était carquefou.
Oui.
Mais c'était un match Coupe de France. Mais il ne pouvait pas avoir entre mains, il y avait trop d'écart. C'est incroyable. Les vos rubriques préférées également, elles sont là tout le temps. Le journal moyen première édition. Souviens-toi, une radio concurrente, une radio amie, s'était trompée d'invité. Ça arrive hein, parfois. T'invites un invité et c'est pas
ça
l'invité.
Ça nous est déjà arrivé. Hein.
On arrive. Ce sera l'occasion de réécouter ce qu'on appelle la Frédéric Pouillet, notre producteur, qui s'était trompé un jour entre Loïc Perron et Mathieu Bastaro. Deuxième édition du journal moyen. On venait de recevoir Armand Duplantis, Pierrot, la légende de l'athlétisme mondial, le perchiste. J'avais tenté dans le Kikadi, 20 secondes, quelques minutes après, Vincent, prénom et nom de ton invité que tu viens de recevoir. Armand Duplantis.
Normalement, c'est échec.
Va-t-il réussir? Rendez-vous 16h45 et 17h45. Le Kikadi, ce sera un jour de grand chelem.
Potentiel pour Eric. Petite surprise, un petit cadeau supplémentaire. Vous le saurez en écoutant les 3 heures de Super Moscato Show.
Genre d'un entraîneur de foot qui vient de quitter sa sélection.
Non, n'importe quoi. Okay. Des surprises, ça peut tout être tout et n'importe quoi.
Allez, on y va.
On démarre avec les critiques sur Mbappé.
On ne va plus au jardin pour les mêmes raisons.
Kylian est dans un programme avec son club, le Real Madrid.
La promenade a un but nouveau.
On appelle alors sera brassé, oxygéné.
Le parcours sportif qui permet de se dépasser.
Plus de dynamisme, de mobilité, de vitesse.
Se défouler.
Plus de dynamisme, d'entrain.
À la mesure de chacun.
L'équilibre n'est pas toujours facile à trouver.
Inciter les personnes âgées à quitter leur chambre, c'est le premier objectif de cet équipement.
Depuis, il a retrouvé du temps jeu-jeu et à partir du moment où il avait un protocole qui était mis en place.
Certains mouvements sont alors des découvertes, d'autres semblent anodins.
Et des travails spécifiques, il y a des exercices spécifiques, pardon.
Mais permettent d'entretenir les gestes du quotidien.
Quand la vie est difficile, le quotidien est très difficile pour certains d'entre eux.
Travailler hors les murs et de façon ludique, si possible.
Que ça puisse m'intéresser, hein. Pourquoi pas, mais aujourd'hui, j'ai toujours besoin du terrain, de cette adrénaline. Il y a encore de questions ?
RMC, le gros débat du Super
Moscato
Show.
Tu l'avais net, Eric. Ça suffit,
Non, mais tu demandes, Eric, t'as la mettre,
d'adrénaline.
Il le dit comme un mec qui n'a plus du tout d'adrénaline dans le sang.
Tu juges, toi, tu préfères le jaja ou le jeu, non?
Tu sais, c'est le portable qui se décharge d'un coup.
Le jeu.
On respecte plus personne aussi.
Et attention, quand l'an prochain, on va s'attaquer à Zidane.
Oh, Zizou.
Vous allez tous vous faire dessus. Il n'y a personne qui va l'ouvrir.
Ça dure un général.
Là, Didier, c'est facile là, d'attaquer Didier.
Ça dure un mois en général. Ça, le truc.
Alors, Mbappé, cette fois-ci, les critiques viennent d'Espagne. La saison en chiffres est exceptionnelle, mais l'attitude fait débat. Il a été critiqué dans le journal AS après le match contre l'Atlético que le Real a gagné en terminant à 10. Est-on injuste avec Mbappé? Ou bien est-ce que c'est Mbappé qui le cherche bien? 32-16. Florent Germain, en direct des États-Unis où la France affronte le Brésil jeudi. Salut Flo.
À Boston. Salut les amis. Salut à tous.
Comment il va?
Ça va. Et j'embrasse ma fille Victoria qui fête ses 11 ans.
Joyeux anniversaire Victoria.
Elle a pas son papa, mais je lui ai dit que Moscato allait chanter.
Supportrice de l'OM.
Joyeux anniversaire, ma petite Victoria. Elle a osé, elle doit être avec son copain.
Peut-être. Elle a osé. On est de l'école.
On les Marseillaises.
Mbappé, tu veux qu'on aille sur ce terrain-là?
Mbappé n'est pas critiqué pour ses performances, on est d'accord, mais pour son attitude, Flo.
Oui, il a joué 25 minutes uniquement contre l'Atlético, c'était dimanche, victoire 3-2. Mais c'est vrai qu'il a subi les foudres des médias espagnols pour son manque d'implication collective. Bon, disons-le franchement, le fait de ne pas assez défendre dans un match qui était crucial. Les premières critiques, on en parle parfois de ce chiringuito avec l'un de ses présentateurs phares, Josep Pedrerol. Bah écoutez, j'ai sorti l'édito qu'il a eu juste après le match.
On va le dire. El Madrid de Arbeloa es otro.
Arbeloa, c'est un autre Real.
Pelea.
Ça court.
Ça se bat.
C'est engagé, c'est solidaire.
Solidario. Lástima que haya
ce qui est dommage, c'est que le Real est terminé avec 9 joueurs.
Sans Valverde
suspendu.
Mbappé.
Et sans Mbappé.
Ah ouais.
Voilà, donc un petit clash avec la musique qui va avec. Il ajoutera après que Arbeloa a presque perdu la Liga en prenant ce risque de faire entrer Mbappé. Bon, on est quand même dans une période où, avec sa blessure, ça va être le Real s'en est quand même très bien sorti, voire même s'est un peu révélé. Il y a eu des matchs phares contre City, un 3-0 en Ligue des Champions. Il y a des joueurs qui ont enchaîné les buts, Valverde, Vinicius notamment, qui se sont lâchés, qui se battent. Et puis il y a un autre quotidien, tu l'as dit Pierrot, c'est le quotidien AS qui n'a pas été tendre avec Kylian Mbappé. Thomas Roncero, l'éditorialiste, dit « Il est talentueux, mais tellement détaché dans ses gestes que le Bernabéu ne sait plus quoi penser de lui. Mbappé doit revoir son attitude. » Donc en Espagne, on va vraiment suivre le temps de jeu qu'il aura avec l'équipe de France. Et puis ensuite, il sera attendu au tournant parce qu'il y a un Real Bayern en quart de finale qui s'annonce explosif.
Alors Vincent, la question est la suivante. Est-on injuste avec Mbappé ?
Il n'y a pas d'injustice dans le sport. Soit tu dans le contenu, t'es fort. C'est-à-dire que moi, cette histoire des mecs qui peut tout faire parce qu'il marque des buts et qui défend pas, c'est pas. Alors ma conception des choses, quand tu joues au rugby, c'est pas possible. C'est pas possible autrement. Je comprends que dans le football, ce soit différent. Je le comprends, mais quand même, tu ne dois pas être tout le temps avoir une attitude de pas. Tu as une attitude qui est dans plusieurs tiroirs, c'est-à-dire que selon, il y a des matchs où il faut y aller. Il y a des matchs où il faut aller au mastic, d'autres matchs où tu peux te relâcher parce que c'est pas ton naturel de défendre parce que t'es un attaquant, mais il y a des matchs où il faut aller au mastic. Quand il y a le feu à la maison, il faut défendre. Et quand tu défends pas, ben moi je suis entraîneur, ça me gaverait. Il y a plein de joueurs, de grands attaquants, alors c'est peut-être pas leur spécialité quand t'es attaquant, mais il y a plein de mecs qui font des efforts. Dans le foot, ça a toujours existé. Au basket, t'as plein de mecs qui ne défendaient pas dans le système américain, et il y en a d'autres, des mecs qui marquent des paniers, qui sont des attaquants, qui défendent parce que la surface est plus petite. Mais de ne jamais faire d'efforts, même quand il y a le feu à la maison, je trouve que c'est parfois gênant et indécent, et ça, alors de dire tout le temps, on entendra l'importance qui marque. Ouais, mais ça suffit pas. Le foot n'est pas un jeu que de marquer. Il faut défendre aussi. Pour n'importe quel mec. Je veux dire, voilà, c'est simple. On dit, ouais, non, mais alors, on a un goal. Il est pas bon sur la ligne. Il est moyen, tu vois, au niveau des mains. Par contre, il y a un très bon jeu au pied. Ben, ça suffit pas. Mais ça suffit pas pour arrêter des buts. Ça fait pas un goal complet. Je m'excuse, ça fait pas un goal complet. Mais c'est ça qu'on permet à des mecs, et ça s'est installé dans les mentalités, on permet à des mecs de rien faire, d'être au-dessus, d'être une caste par rapport aux défenseurs supérieurs. Ça me gonfle. Le sport, c'est l'égalité dans le travail. Après, il y a des mecs qui ont plus de talent que d'autres, et ceux-là, faut les respecter, il faut les aduler parce qu'ils te font gagner. Par contre, au nom de ça, tout n'est pas permis. Tu dois de temps en temps aller en bas, faire les basses œuvres. Voilà. Alors, et pas le laisser à des pauvres joueurs comme Eric, Vincent. Des fils de maçons italiens. Tu vois, toujours vont aller se jeter. Regarde dans quel état il est maintenant. Voilà, le pauvre.
Pas juste pour Vincent, Eric.
Oui, alors il y a une part d'injustice parce que on l'a, et encore parce que là, moi j'ai toujours défendu Mbappé et souvent ses stats faisaient que c'était facile de le défendre. Mais là c'est vrai que, alors j'ai lu un petit peu tout ce qui s'est écrit ce week-end sur Mbappé, sur son comportement. Je pense que si ce garçon qui a un énorme talent, qui est on a beaucoup de chance et il faut le dire de l'avoir tu vois, de l'avoir chez nous. Il est français, donc profitons parce que ce mec-là peut te faire gagner et il nous a déjà fait gagner des grands matchs, des grandes compétitions. Il n'y a pas de souci. Sauf que tu peux aussi à son âge avoir une petite marge de progression et d'apprendre. Sur ce que j'ai lu en Espagne, alors il y a ce côté où en effet il défend pas beaucoup, en tout cas il fait un petit peu l'effort pour faire un style, mais il en fait pas beaucoup. Mais il y a d'autres reproches qui lui sont faits, comme ce qu'il donne au public, quoi, parce qu'il est tellement autocentré que, si tu veux, les journalistes là-bas en Espagne pensent qu'il donne pas assez au public, quoi. Voilà. Alors il est adoré là-bas, attention, hein, y a pas de souci. Mais si tu veux, s'il a quelques progrès à faire, oui, il y a travailler un peu pour le collectif, parce que je pense qu'aujourd'hui dans le football actuel, tu peux plus défendre qu'à 9 joueurs de champ et un qui regarde. Donc il y a minimum à faire, mais je pense que il le fait, ou en tout cas il essaie de le faire, voilà. Mais je pense qu'il doit peut-être donner un peu plus de parce qu'il a ce côté tellement froid, tellement
que je joue pour ma pomme, puis le reste,
ouais, voilà, tu vois,
je me sers de vous pour me servir, voilà, tout simplement.
Peut-être. En tout cas, c'est le reproche qui lui est fait. Et il faut peut-être l'écouter. Voilà. Maintenant, c'est un peu le jeu. Tu es la star du Real. Ça va un peu moins bien, ou l'équipe tourne un peu moins bien, ou ouais. Ben les mecs ils tapent sur toi, quoi. Tu vois, ils tapent sur Ronaldo. Ils tapent. C'est le jeu aussi, quoi. Malheureusement.
Il pourrait se l'éviter. Il pourrait aller au mastic un peu de temps en temps. Il fait 2-3 courses de repli. Il essaie de se jeter une ou deux fois dans les cannes des mecs. C'est réglé. Tout le monde. Mais c'est pas que ça.
Quelques efforts. Même
à la limite, c'est du playback. Même à la limite, ça passerait, mais il le fait même pas.
En fait, moi, j'ai quand même l'impression depuis un moment, même avec le Paris Saint-Germain, qu'on a mis une étiquette à Kylian Mbappé de ce garçon ne défend pas et ne fera pas gagner ses équipes. Et j'ai l'impression que ça devient compliqué pour lui de se défaire de cette étiquette-là. Et que même si éventuellement il fait les efforts, parce que je pense qu'il est capable d'en faire et qu'il en a sûrement fait, on serait même plus capable de déceler ces efforts-là parce qu'on aurait cette étiquette de Mbappé. Il est centré sur lui-même, qu'il y a que ses buts qui l'intéressent, que ça l'intéresse pas de défendre. Et je suis même pas sûr qu'on serait capable aujourd'hui de louer les progrès éventuels de Mbappé. Et c'est malheureux pour lui parce que on est en train de voir que les mauvaises choses de Mbappé sur ces dernières années, alors que il y a tellement de choses positives qui sont plus nombreuses que les défauts de Kylian Mbappé, et on est en train de se concentrer uniquement sur les défauts de Kylian Mbappé. Et je trouve ça, moi, injuste. Je trouve injuste. Kylian Mbappé, quand tu construis une équipe, les mecs qui ont construit l'équipe du Real Madrid ou les mecs qui ont construit l'équipe du Paris Saint-Germain, et c'est pareil au basket et c'est pareil au rugby, chaque joueur a des caractéristiques différentes, et quand tu prends des mecs, tu sais que lui, il a des carences qui sont celles-là, et tu les adaptes avec d'autres mecs autour. Aujourd'hui, Mbappé, c'est trop tard. Ça fait 5 ans qu'on fait des débats sur Mbappé, il faut qu'il défende. Vincent, c'est ton credo de dire il va défendre.
C'est jamais trop tard.
Mais c'est qu'il est. Enfin.
Dembélé.
C'est jamais trop tard.
Dembélé, jamais on l'avait vu presser avant l'effet.
À 27 ans, c'est pas trop tard.
Il n'a pas le même impact offensif que peut avoir Kylian Mbappé.
Je veux dire, on ne compare pas exactement les choses. Dembélé, Eric, je parle sous ton contrôle. Au Barça, on ne voyait pas faire des pressings comme il fait au Paris Saint-Germain. C'est nouveau. C'était une consigne de Luis Enrique. Il a accepté.
Et ça vient.
Il est ballon d'or, Dembélé.
Ce qui me fait dire qu'il est parfois incurable, c'est que. Luis Enrique a réussi à faire ce travail avec tout le monde, avec Dembélé, avec tout le monde, pas avec lui.
Mais rappelez-vous le documentaire avec Luis Enrique face à face qui lui dit c'est catastrophique. Si tu veux gagner là aussi le respect de tes coéquipiers qui se tapent les fesses pour toi, tu dois défendre. Et lui il dit ok, c'est bon, j'ai compris. Et alors à l'arrivée,
il s'est rien passé. Il y a un truc qui aussi a animé un peu ce débat-là et qui a peut-être donné ce débat-là, c'est que il a fait quoi, 4 ou 5 matchs là. Enfin, il y a 4 ou 5 matchs où il était pas là.
Et le Real a gagné avec d'autres valeurs.
C'était bon.
Voilà. Hein. Et si tu veux, ils battent le City 3-0, ils vont gagner là-bas. Ils gagnent l'Atlético ce week-end dans un match top match en plus. Tu vois, avec justement. moins de talent peut-être sur le terrain, et notamment à son poste du coup, mais avec une envie collective un peu supérieure à quand il est là, parce que le problème c'est ça aussi qui fait que les mecs ont lancé ce débat là. Alors moi tu m'enlèveras pas de l'idée que le Real est moins fort quand il n'y a pas Mbappé, mais il n'empêche que la double confrontation contre City qui n'était pas gagnée d'entrée quand même, attention c'était pas fait, ben ils l'ont fait sans souffrir et plutôt de belle manière, tu vois, en gagnant facilement à la maison. Alors avec Valverde qui marche sur l'eau et en allant gagner là-bas, ils ont même pas tremblé, tu vois, là-bas. Donc c'est pour ça que ça relance le débat, parce que et le débat il existe aussi parce que il part du PSG derrière, il y a pas une tête qui dépasse, oui, et avec des mecs qui se battent les uns contre les autres, avec Dembélé qui fait du pressing, vient de le dire Adrien, tu vois. Donc si tu veux, c'est pour ça qu'on a ce débat là.
Est-ce que c'est pas plus facile pour Arbeloa, avec l'absence de Mbappé et l'absence de Bellingham, d'avoir une équipe qui se met un peu les fesses par terre et qui a un peu plus de niaque aujourd'hui à un moment donné, et on en revient en problématique du PSG à l'époque. Abus de stars, et ben parfois ça nuit. Et là, Arbeloa, quand il va récupérer Mbappé et Jude Bellingham, et ben je lui souhaite bonne chance aussi pour jouer avec.
Mais c'est
avec
ça qui est anormal. Normalement, voilà, quand tu récupères Mbappé et Bellingham, ça ne doit être qu'une bonne nouvelle. C'est ça le problème du foot.
Ça, moi, je pense pas.
C'est qu'un mec qui ne pense qu'à sa gueule, s'il nuit au collectif, la balance, elle n'est pas évidente, en fait.
C'est le même, Bellingham, Mbappé, c'est le même. Abus de bien, on dit, ne nuit pas. Mais en sport, abus de bien, parfois, ça te nuit. Ça se retourne contre toi. Et là, mais on l'a vu au PSG. Neymar, Messi, ils ont tous enfilé, hein. Et que du talent, que du talent. Mais non, mais les gens, il faut bien se rendre à l'évidence que l'autre a construit, justement, sur ça, sur l'anti-star.
Individualisation.
De l'individualisation. Hein. Oui, non, mais des stars, on s'en fout. Des bons joueurs de foot, il en faut pour gagner, bien entendu. Autrement, tu fais pas la Champions League. Mais l'anti-star, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui dépasse.
C'est compliqué de te remettre en cause quand les chiffres sont monstrueux.
Mais le
jour où il fera une saison où il ne mettra pas un but,
non, les chiffres de défense.
Oui, mais ce n'est pas un accomplissement, en fait.
Il n'y a que les chiffres.
Les chiffres individuels, ce n'est pas un accomplissement dans un sport collectif.
Est-ce que tu fais gagner ton équipe? Est-ce que ton équipe t'en fait une championne d'Europe et tout ça? On va le voir, l'avenir va nous le dire. Parler à 27 ans.
Mais vous êtes sûr que si Mbappé il met 20 buts et qu'il défend plus,
écoute, un homme envoie un autre. Jalibert, il défendait pas. Il a compris qu'il faut qu'il se file.
C'est un peu plus dur.
Il se jette dans les roues. Je l'ai vu. Non, mais il se jette en bas, dans les roues du camion, il se jette. Tu comprends? Parce qu'il est obligé, autrement il dégage. Seulement personne ne lui met son ultimatum.
Oui,
parce qu'il met des
buts à Mbappé. Regarde la différence.
C'est pas pareil.
La différence Jalibert-Mbappé, c'est que Jalibert, à un moment donné, il a compris que s'il voulait être un joueur titulaire en 15 de France, il devait s'y mettre. Mbappé, quoi qu'il arrive, il est titulaire tous les jours avec l'équipe de France de football. Pourquoi
Arbeloa fait la même erreur qu'on a fait nous de dire c'est le meilleur joueur du monde. Pourquoi, en fait?
Parce que c'est
parce qu'on pense comme ça. Mais aujourd'hui, il y a débat. Mais t'es pas obligé.
Arbeloa, c'est un petit coach qui a un petit.
Aujourd'hui, il y a débat sur le meilleur joueur du monde. Il n'a pas réglé le problème.
Arbeloa, il le fait parce qu'il n'a pas de légitimité.
Il dit ça, après il lui tire les pompes, il lui porte le sac.
Il prend rien comme nous, on n'a rien fait.
Guardiola, Mourinho l'aurait pas fait, Pierrot.
Quand il y a eu Luis Enrique, dehors, c'est tout, c'était réglé, parce que là, personne, il porte le sac à personne, Luis Enrique. Le problème, il est là, c'est qu'il y a des mecs, déjà, il lui dit rien, personne ne lui dit rien. Si un jour, l'ultimatum, il tombe, tu lui dis, écoute-moi, papa, si tu ne défends pas, tu dégages.
Oui, mais en équipe de France, il a fait gagner le trophée ultime. Donc, attention,
peut-être un peu différent.
Et puis en plus, les compétitions sont concentrés sur 7 matchs, un mois et demi.
En sport.
C'est pas tout à fait pareil. Là, ni au Real, ni au PSG n'a fait gagner le trophée ultime. Donc pourquoi ce statut d'intouchable? Ça vient d'où?
Tout est éphémère en sport. Ce que t'as gagné, c'était bon sur le momentum. Oui, momentum, tout à fait. Tout était bon sur le momentum. Tout ça, c'est du passé. Oui. Maintenant, il faut remettre ta carte. Ton CV, il faut le remettre à jour. Pour l'instant, Nîmes. Donc, il revient au masque.
Peut-être que Didier, il s'exprime bien avec Kylian, et Kylian est le seul à comprendre les propos de Didier Deschamps.
Le problème aussi qu'il y a quand tu es dans une équipe comme le Real, c'est que bien sûr que Kylian, c'est la star, il est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde et tout, mais autour de lui, il en a quelques-uns qui sont pas mal, tu vois, les Vinicius, les Bellingham, c'est des mecs qui ont des statuts aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si toi tu fais pas le minimum syndical, autour de toi, les mecs ils vont te dire, ben pourquoi moi je le fais si lui le fait pas. Et voilà, donc alors quand tu gagnes, tout va bien quand tu gagnes, mais dès qu'il y a un accro, deux accros, ben les mecs à un moment donné, ils commencent tous à couiner et à plus vouloir faire d'efforts. Mmh. Et là, tu tombes dans le trou, voilà, et ton équipe devient moyenne.
Et dans un instant, nous allons parler rugby. On va faire un peu d'histoire pour les plus jeunes. On revient sur la Coupe du Monde 95, une défaite en demi-finale injuste, cruelle. Face aux Springboks, quelle est la défaite la plus traumatisante, celle-ci ou celle de 2023? C'est dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show. RMC jusqu'à 18h. Le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Edouard.
Le meilleur du Super Moscato Show. Alors, dans une demi-heure, nous allons écouter un très bon débat, un débat rugby. Thomas Ramos est-il le vrai patron des Bleus? C'est un débat qui est tout à fait valable. Hein.
Tournoi destination, c'était avant le match face au Pays de Galles. C'est un taulier, Thomas Ramos.
Eh oui,
il sait tout faire.
Et puis c'est le joueur le plus important parce qu'il passe tout au pied.
Et il joue partout. Il peut jouer 10, il peut jouer 15. C'est assez incroyable. Hein.
Mais avant ça, il y aura le journal moyen, Adrien.
Le journal moyen, première édition. Une radio concurrente, une radio amie. C'est trompé d'invité un jour. Mais je crois bien que ça nous est arrivé, nous, dans le Moscato Show, l'occasion de revivre un moment mythique de notre émission.
Tout de suite, on parle rugby.
Oui.
La plus traumatisante, celle de 95 ou de 2023 face aux Springboks.
Entre moments de légende, joueurs mythiques, origine et héritage.
Surtout pas expliquer les choses, pas expliquer le rugby.
L'Afrique du Sud a fait de la domination physique son principal atout.
On parle de ces énergétivores, ces gens qui vous épuisent votre énergie.
Les impacts et le combat sont indissociables de ce sport.
Le rugby, ça part du cœur, quoi. C'est une volonté de devenir un homme.
La violence du rugby en fait une discipline collective à part.
C'est pour qu'il me plaît, pour m'exprimer, quoi.
Les Springboks ont vu passer quelques-uns des plus puissants athlètes
du monde.
Et quand on sait que cette équipe joue pour l'union de son peuple, on peut s'attendre à tout.
Le rugby, c'est un spectacle.
Même à l'impossible.
L'expérience, ça sert un petit peu, quoi.
RMC, le Super Moscato Show.
France, oui. Afrique du Sud, la revanche.
C'est peut-être d'un tout petit peu d'expérience dont on a manqué en 2023. Donc, c'était quand même.
C'est pas la revanche, pas Pierrot, quand même.
Une vérité.
On peut pas. Oh oui, c'est un match.
Un match où tu peux être revanchard.
La revanche, ça sera en 2027, sinon il y aura une revanche.
Ouais, alors, en tout cas, on entame une semaine spéciale France-Afrique du Sud. Deux fois, les Springboks nous ont privés de notre rêve mondial, Vincent. Il y a eu ce quart de finale 2023, dont on se souvient très bien. Et puis, une demi-finale en 95 pour les plus jeunes, on va vous rafraîchir la mémoire, mais évidemment, ça fait partie des grands matchs de l'histoire du 15 de France, ouais. Et même de l'histoire de la Coupe du Monde. À chaque fois, des bizarreries arbitrales et des regrets immenses. Quelle est la défaite la plus traumatisante, 95 ou 2023, 32-16? Nicolas Paolorsi est là pour nous raconter cette demi-finale de 95. Salut Nico.
Salut le Moscato Show. Salut
à tous. Pour rappeler le contexte et le scénario de ce match, France-Afrique du Sud 95.
Scénario de dingue, Pierrot. Ce jour-là, à Durban, déjà, il pleut des trombes d'eau. C'est un déluge. Et ça pousse l'arbitre, Vincent, à repousser trois fois le coup d'envoi de la rencontre. Donc, imaginez déjà la dramaturgie du match avant que ça commence. Ensuite, quatre essais sont refusés aux Bleus. Deux à Fabien Galthié, un à Emile Ntamack et surtout celui de la 78e minute à Abdelatif Benazi. L'arbitre gallois Derek Bevan assure que Benazi n'a pas marqué, alors que Benazi dit l'inverse. L'arbitre donne ensuite une mêlée. Les Bleus enfoncent les box sur les trois mêlées qu'ils vont disputer. On s'attend tous à un essai de pénalité. Rien. Sur la quatrième mêlée, la France perd le ballon. Défaite 19-15. Pour continuer sur les injustices, le seul essai qui est inscrit dans ce match par les box aurait dû être refusé. Kruger n'avait pas aplati le ballon, il l'a avoué lui-même des années après. Le sentiment qui règne ensuite, c'est que tout a été fait pour que l'Afrique du Sud gagne sa Coupe du Monde. Un sentiment, Vincent, qui est renforcé par la montre en or que l'arbitre Derek Bevan a reçue comme cadeau de la Fédération Sud-Africaine lors d'un dîner officiel.
Beau,
et en finale, les box battent les Blacks, diminués par une intoxication alimentaire. Ouais. Voilà, mais ça fait partie des défaites qui ont marqué la Coupe du Monde et ça reste un immense traumatisme ce match.
Et en rappelant bien sûr que c'est aussi un moment d'histoire tout court pour l'Afrique du Sud et pour le monde entier puisque c'était juste après la fin de l'apartheid, premier moment d'union de la nation
française. Oui, puis Mandela qui avait été libéré.
On change de débat parce qu'en écoutant Nico, je me suis dit le bon débat c'est en fait si Bernard Laporte président en 95, est-ce qu'on aurait été champion
champion du monde.
Non, là non.
En fait, c'est ça le bon débat, non?
Je pense, président de la République.
Je pense que l'équipe de Sudaf, c'était un traumatisme parce que bon, tu pouvais les battre, mais moi, pour moi, c'est vieux maintenant. Le problème, c'est que le sport, ça vieillit pas terrible. Ouais, c'est éphémère, ça vieillit pas terrible. C'est vrai que c'est un vieux souvenir qui est dur parce que on sait le contexte, on sait que les Springboks étaient avantagés, ça sentait quand même la carotte, et la carotte, on a pris les blagues derrière, on a pris la carotte. Mais non, mais surtout, c'est pas dit qu'on aurait été champion du monde. Mais surtout, le plus dur, c'était 2023. 2023, c'est affreux.
Pour toi, c'est plus un traumatisme 2023.
Ah ouais, parce que t'es à la maison, t'as l'équipe, t'as une équipe incroyable pour être champion du monde. On n'est pas Chounard, on blesse Dupont, Intermac ne fait pas la Coupe du Monde. Tu vois, on a tout contre nous. Il y a ce truc de Edge the Best. Moi, je veux bien que tu m'expliques qu'il n'y a pas en avant, pas en avant, qu'il n'y a pas pénalité. Tu pourras me l'expliquer toute ma vie. Pour moi, il y a une tricherie là qui est terrible. On doit marquer un essai, lui doit prendre un carton jaune. À la sortie, il n'y a rien de sifflé.
Il prendra un jaune après, plus tard.
Il prendra un jaune plus tard. Mais non, tout va mal. Tu vois, à la fin, il y a une faute grossière des Sud-Africains qui n'est pas sifflée. Autrement, il y a pénalité. Tu peux encore gagner le match.
Et c'est eux qui gagnent la pénalité.
Et c'est eux qui prennent la pénalité.
La main au sol.
Bon, voilà. Donc, ça pareil, grosse carotte. Moi, je pense qu'en 2023, grosse carotte. Et puis, c'est plus proche de nous. Donc, c'est plus proche. Donc, automatiquement, on est encore un peu. Ah, tu vois, c'est un mauvais goût, ce match. Et le problème, c'est que les tests là ne seront pas du tout une revanche.
Non,
si tu le perds, c'est mal. Mais si tu peux leur mettre un peu près, bah, ils te diront oui, mais le champion du monde, c'est nous. Non, là, c'est un match, voilà, c'est des tests, il n'y a pas de souci là-dessus.
Ah, mais si tu perds à domicile, tu reprends un coup sur la tête.
Non, gagner. Mais même si tu gagnes, c'est ce que je te dis. Si tu gagnes, ça n'effacera rien.
Denis Charvet.
Moi, il n'y a pas photo. D'abord, j'étais dans le stade avec Wilfried et qu'après
Wilfried Templier, ouais, 2023,
et on a ressenti quelque chose de terrible, c'est-à-dire que la Coupe du Monde s'arrêtait au moment où il a sifflé la fin du match, c'est-à-dire qu'il y a même les tribunes, tout, les gens sont partis avant tout de suite du stade, le stade s'est fini en 2 secondes. Je crois que les gens ont vécu un vrai cauchemar. Et puis moi, je pense que comme Vincent, je pense qu'on a tout été écrit, quoi. C'est-à-dire que nous, les Anglais, tu les battais, les Blacks, tu les gagnais à nouveau. Ouais. Ils avaient battu en match de poule. Tu les gagnais en finale. C'était pour toi, c'était la Coupe du Monde. Comme en 2007, on pensait que c'était notre Coupe du Monde. Souviens-toi, en France.
C'est un peu le même traumatisme, d'ailleurs.
Ouais, un peu le même traumatisme, mais là, c'est pire.
Sauf qu'en 2007, les Argentins étaient meilleurs que nous.
Oui, ils ont fait un meilleur match que nous, mais après, tu bats les Blacks.
Deux fois, ils nous battent, et deux fois, il n'y a rien à dire.
Oui, mais attention, tu perds les Anglais que tu dois jamais perdre au Stade de France en demi-finale. Et derrière, t'as l'Afrique du Sud.
Les Anglais qui étaient pas bons. Qui étaient pas bons, l'Afrique du Sud, qui était moyenne. C'est là, elle est dure aussi. 2007, elle est dure. Mais bon.
2007, elle est moins dure. 2007, tu fais un exploit, mais tu vas jamais aller battre les Blacks.
Oui, mais c'est ça la différence.
Tu fais un exploit, tu te dis que tu es champion du monde.
Oui, mais sauf que les Anglais te battent
à la régulière.
Non, mais là, pour moi, c'est une. Oui, en 95, je m'en souviens très bien. Je me souviens où j'étais. On se souvient tous où on était quand t'aimes le rugby, mais. Ouais, tu t'es fait voler, mais là aussi c'est un peu pareil, l'injustice. Moi, je pense ce quart de finale, moi il reste en travers de la gorge parce que c'est une injustice totale pour moi. Les arbitres.
95, c'est une injustice absolue.
En
fait, le distinguo entre 95 et 2023, c'est que 95, c'est une escroquerie et tu ne contrôles pas cette escroquerie là.
C'est quasiment avéré.
T'as dit qu'en 2023, c'est toi, c'est pas truqué. Il y a eu une 2 heures d'arbitrage, Colby qui contre le.
Oui, c'est 2 heures
d'arbitrage. Et tu peux être responsable aussi parce que tu fais des erreurs sur des ballons. Je trouve que 2023 est plus frustrant parce que ça se joue plus sur le terrain, sur tes bêtises, sur un Tamac qui est pas là. T'es frustré parce que t'as pas une Tamac, parce que Dupont est pété et il est à 50%, et ça se joue sur le terrain. 95, c'est une frustration parce que t'as pas les choses en main. Tu peux faire ce que tu veux sur le terrain. Tu sais que t'as perdu d'avance. C'est pour ça que 2023 est quand même plus douloureux à mon sens.
Tu dis tu pouvais pas gagner alors que t'es quasiment, en fait, t'as gagné le match quasiment.
Oui, mais tu le voles.
Voilà. Pour moi, 95, elle est vraiment similaire à France-Allemagne, mais 82, où tu as un sentiment d'injustice totale, absolue. C'est-à-dire que tu sais que le match, tu avais l'exploit.
Oui, le vol.
Comme Michel Platini en 82, l'exploit, il était là, et on te le vole.
On te le vole en te regardant comme ça, en faisant un pied de nez comme ça.
Non, Pierrot, en Afrique du Sud, pour moi, l'Afrique du Sud, c'est une raison d'État. tout simplement.
Oui, mais ça, oui, non, mais
que
ça
faire
va...
en sport,
oui, mais c'est ça, ça, je tiens ça, à la prochaine fois que tu verras Pierre Berbizier, tu diras oui, non, mais c'est
j'en
raison d'état.
Pierre,
mais tu verras ce qu'il va te répondre.
Pierre, déjà, ça dépasse le sélectionneur. Ça dépasse le cadre du sport.
Tu contrôles pas. 2023, tu peux contrôler ça. Oui, tu peux le gagner quand même.
Toi, Pierrot, tu vas chier parce que c'était. T'avais rien dit quand Mandela avait été en prison. Là, Sarko, tu. Tout,
le traumatisme, c'est quand même, c'est que non, si on veut relativiser les choses, l'en avant, le traumatisme de 2023, comme dit Stephen, on se la mange un peu aussi nous dans le jeu. Oui. Donc, regarde, l'en avant d'Elsebet, il a la 7e minute. Il y a tout un match
14, à faire. 0, c'est fini.
Non, c'est pas fini. Non, tu peux pas dire que c'est fini, c'est impossible.
Alors, attends,
à la fin, on les enfonce. J'alibère le coup de pied à la fin.
Question moyenne.
Mais oui.
Question moyenne, Vincent. Qui méritait le moins d'aller en prison, Mandela ou Sarkozy? Alors, allons-y. Faisons-la.
J'ai pas comment vous l'avez vécu, mais je me suis retrouvé en conférence de presse. J'y vais jamais, j'y suis allé parce que j'avais besoin d'y aller. Je vais bizarrement.
En 2023,
j'étais dans un coin, je me suis caché.
Et ensuite, t'as dit à Fabien, dis-nous la vérité, Fabien. Dis-nous, parle-nous.
Non, c'était un vrai cauchemar, un traumatisme incroyable.
Non, moi aussi, moi, 2023,
et j'ai entendu, et j'étais là, je voyais le pauvre Antoine qui, effectivement, quand t'es joueur, t'as pas le même ressenti.
La haine,
mais je me dis,
et
mais
il s'est retenu de non,
oui, mais je me dis, le pauvre, quand t'es joueur, t'es
c'est
pas
retenu, souvenez-vous.
Quand t'es joueur, c'est affreux, quand tu as vécu mais
le. Non, mais sur une semaine, c'est une horreur.
C'est une horreur.
J'ai dit, putain, on a gagné. Non, mais... On marque l'essai.
Mais non,
marque...
les gars, c'est long derrière.
Mais souvenez-vous, la dernière
pénalité qui leur donne
le pilier, il a la main gauche au sol, il gratte le ballon sous les yeux de l'arbitre et d'Antoine Dupont.
Bien sûr. Et Antoine Dupont, il dit, je sais pas si vous avez vu, la première fois, je l'entends dire, du mal d'un arbitre.
Il a dit, on n'a pas compris, ou comme ça, la dernière
pas
décision.
Compris, trucs, ouais, non, il se sent voler, quoi.
C'est la première fois qu'on le voyait comme ça.
Après, ces erreurs d'arbitrage, on se réfugie beaucoup, alors qu'il y a beaucoup d'erreurs quand même de
oui, après, ça n'empêche pas que sur les ballons,
oui,
tu te fais étouffer, tu prends deux essais, ça n'empêche pas, mais si tu mets d'entrée l'essai là, t'as fait 0.
À 14 contre 15, parce que si tu laisses plus.
Juste une petite question rapide. Ce match de 2023, tu le perds plus sur les ballons ou sur les erreurs d'arbitrage, Vincent?
Erreurs d'arbitrage,
Le problème, c'est qu'il ne faut pas que la plus traumatisante soit celle de 2027. J'ai peur qu'ils paye les battre quand même pour être champion du monde.
On va les rejouer de toute façon, il faudra leur marcher dessus. On va parler d'un autre sport de combat, Pierrot, le plus beau des sports.
Avant, le journal moyen, la boxe.
La boxe.
Et un boxeur qui gagnait à être connu, le français Yoyarlin César, vice-champion du monde de boxe olympique.
RMC, le cri du cœur du super Moscato Show.
C'est la nouvelle génération de la boxe olympique française. Il est vice-champion du monde à Liverpool il y a quelques jours. Yoyarlin César, vice-champion du monde donc en moins de 80 kilos. Bravo. Salut Yoré.
Bonjour.
On découvre aussi ton nom et ce prénom qu'on ne connaît pas, qui est espagnol, c'est ça? Ou hispanique?
C'est Dominique.
C'est Dominique. Hein.
Yoré César, l'impérateur. Comment ça va? Bon, merci d'être venu dans le Super Moscato Show. Ça nous fait plaisir. Il paraît que t'as moins du pâté, quand même.
Merci beaucoup. Dire,
il paraît que t'as pas des plumeaux au bout des mains. Hein. Quand t'en vois, t'en vois.
En tout cas, Vincent, il est dans le studio en cravate.
La classe.
C'est exceptionnel.
Alors, tu sais ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, je vais voir Vincent, un roi de la sable. Je me prépare.
Il y aurait revenant sur cette médaille d'argent que tu as dans la poche, je crois. C'est l'aboutissement d'une grosse saison parce que t'as aussi gagné la Coupe du Monde à Astana, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que cette médaille d'argent te comble de bonheur ou est-ce qu'il reste de la frustration de ne pas être champion du monde?
Juste après le combat, j'ai eu beaucoup de frustration de ne pas avoir ce titre car j'aurais pu devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire en boxe. Mais au fur et à mesure du temps, je savoure parce que cette médaille d'argent, elle représente beaucoup, beaucoup de travail, surtout en peu de temps, parce que juste après les tournois de qualification pour les Jeux de Paris, je n'ai pas pu me qualifier de peu. Mm-hmm. Mais
ça, c'est une grosse motivation, je crois.
Exactement, oui. Et juste après ça, j'ai mis un travail en place, que ce soit avec mon staff et l'équipe de France, et ça a très bien marché. La preuve, cette médaille d'argent, c'est... C'est pour moi un synonyme de réussite et ça présage du bon pour le futur.
Alors, en finale, face à l'Ouzbek, Javokir Oumataliev, tu es compté. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il reste quand même une marche pour battre les tout meilleurs de ta catégorie?
Le comptage, je trouve qu'il n'était pas vraiment justifié parce que je n'étais pas sonné. En fait, c'est parce que j'ai fait une sortie. J'étais un peu déséquilibré, je n'ai pas eu le temps de me replacer et il en a profité pour porter un coup. et le juge a estimé cela comme un coup où il fallait me compter. Or, je ne l'étais pas. Et au fur et à mesure du combat, juste après, je suis bien revenu. Et franchement, je trouve qu'avec un peu plus de travail, c'est un adversaire que dans le futur, je pourrais vaincre.
Alors, d'autant que cette année, tu as battu le vice-champion olympique kazakh Nurbek Oralbay, que le champion olympique est passé chez les pros. Donc maintenant, l'objectif, c'est de, je suppose, hein, de dominer la catégorie.
C'est ça, exactement.
Vincent.
T'es mis lourd, tu fais 80 kilos à peu près. C'est quoi la limite, c'est quoi un amateur? 80, 82?
C'est 80 kilos.
80 kilos, c'est la limite.
Chaque matin de combat, on fait la pesée. Et je dois être en dessous des 80 kilos.
En dessous des 80 kilos, tu fais quoi? Presque un 87, 8?
Je fais 1m91.
Ah ouais.
1,91. Ça veut dire que en amateur ça va passer. Avec le temps, bien sûr, après Los Angeles, tu vas vouloir passer professionnel. C'est quand même une des bases quand même de ton métier. Il va falloir un jour rentrer un peu de fraîche, un peu d'oseille quand même. Mais par contre, avec le temps, tu sais que ça va être très dur de te maintenir à 80 kilos. Il va falloir que tu montes de catégorie.
C'est ce que les gens me disent. Franchement, avant j'étais en moins de 75 kilos et pareil, les gens me disaient que j'allais galérer à faire le poids. Au final, il a fallu que je monte parce que la catégorie des 75 kilos n'était plus olympique.
Tu pouvais pas.
Exactement. Et même par rapport à ma taille, ça devenait vraiment compliqué. Ouais. Mais là,
c'est mi lourd après.
C'est ça. Et non, là, je suis monté en mi lourd pour léger. Ouais. C'est la même chose.
C'est la même chose.
Là, je suis en 80 kilos et franchement, je pense qu'il me reste encore quelques belles années dans cette catégorie avant de monter. Ouais.
Ce que je vois, c'est souvent, c'est le parcours des Holyfield, de Mohamed Ali, mi-lourd à Rome en 1960, qui faisait un 93 à peu près, 93-14, qui faisait 80 kilos, Mohamed Ali. Holyfield à Los Angeles en 84, fait moins de 79 kilos, il est monté après en poids lourd. Donc après, c'est direction la salle de muscu, puis prendre de l'oseille en poids lourd. Combien tu fais d'envergure? Tu fais 91, tu fais combien?
D'envergure, je sais pas, mais enfin, je sais que je fais 1m91.
Tu vas avoir un 95, un 96.
Les gauchers,
t'es gaucher. Ouais. T'es gaucher, ouais. Bah, écoute-moi, il me tarde de te voir après Los Angeles quand tu seras médaillé d'or, monter en poids lourd, parce que là après c'est poids lourd, il faut pas batailler, il faut prendre de l'oseille.
On est avec Yorer Lin César, le vice-champion du monde des moins de 80 kilos en boxe olympique.
La logique voudrait que tu passes professionnel après les JO.
Oui.
C'est ça la logique.
Ah bah oui.
Mais aujourd'hui ta vie, c'est tu me disais que tu entraînes tous les jours comme un pro en fait.
Oui.
On peut pas dire que
la boxe olympique c'est quand même du sport de haut niveau à 100%, on appelle boxe professionnelle.
Les boxeurs sont en dehors du circuit
olympique, mais ils sont déjà pro.
Pour savoir comment ton quotidien.
Mon quotidien, c'est entre études et sport. Du coup, parce que je suis dans un bachelor qui s'appelle le bachelor EPTA et c'est exclusivement pour les athlètes de haut niveau. Et on est répartis dans trois établissements. Oui, c'est aménagé. C'est 80% en distanciel et 20% en présentiel.
C'est entre Sciences Po, l'ESSEC et Supélec.
Exactement.
Sur le CV, ça claque.
Moi, j'étais en sixième aménagé, mais moi, c'est parce que j'étais neuneux.
Mais t'arrives à vraiment suivre des études ou c'est...
Franchement, oui, je m'en sors plutôt bien. Et au niveau de l'organisation, ils font vraiment en sorte qu'on puisse bien suivre les cours.
C'est important, ça.
Et on a également des profs qui nous aident lorsqu'on a des difficultés dans certaines matières.
Alors, si on se prend.
Il y en a un que vous connaissez, qui avait fait ses études là. Un ancien boxeur, c'est Franck Tiozzo.
Oui.
Il avait fait ses études.
Mais il a révélé sur le tard. Il le cache. Ouais.
il est encore en train de finir son cursus, d'ailleurs.
Il y aurait Aline, si on regarde justement, et si on se projette un peu sur l'après-JO, l'après-Los Angeles, dans ta catégorie, actuellement, parmi les meilleurs boxeurs du moment, des Beterbiev, des Benavidez, des Calum Smith, sous tous ces noms-là, tu te sens déjà capable d'aller les chercher ou t'en es très loin encore?
Ce sont des gros noms. Je pourrais pas dire que je me sens pas capable d'aller les chercher, mais c'est encore un autre monde. Et comme je suis sur du 3x3, je sais pas encore comment me situer exactement. Oui. Je sais pas encore comment me situer sur des 10 rondes de 3 minutes.
Ça te fait rêver ces noms-là?
Bien sûr, bien sûr. C'est ce que je dis toujours. C'est lorsque j'affronte des personnes qui sont fortes ou qui ont une certaine expérience, ça m'anime énormément et j'adore avoir ce genre de confrontation.
Est-ce que t'as un modèle dans la boxe?
C'est Floyd Mayweather et Gervonta Davis. L'un est un boxeur très technique qui a une très bonne tactique et l'autre c'est un frappeur, Jarvonta Davis.
Et Usyk. Techniquement, il est incroyable.
Vraiment. Usyk, vraiment.
Techniquement, il fait 1m88 ou 10.
C'est ça.
Et c'est 5 kilos à peine, en mangeant 4 fois par jour. Mais techniquement, quel boxeur! Quel boxeur incroyable!
C'est qui le plus fort en ce moment pour toi?
Pour moi, ce serait Usyk.
Toujours là.
Parce que, tout d'abord, il vient des 80 kilos, donc des mi-lourds, et monté en super lourd, et même comme ça, il parvient à battre tout le monde. Donc c'est juste exceptionnel ce qu'il parle.
Alors un super lourd, un professionnel, c'est lourd. C'est à la catégorie lourd et super lourd, c'est un amateur.
En amateur, on a mi-lourd, lourd et lourd. Super lourd.
Et oui, voilà. Pareil. Mais qu'un professionnel, c'est lourd. Mi-lourd, lourd léger et lourd.
Exact. Oui, c'est ça.
En tout cas, en dehors du ring, tu m'as l'air d'avoir plus le profil Usyk que Tyson Fury.
C'est vrai. C'est quoi ton style? Comment tu te définirais pour quelqu'un qui t'aurait jamais vu boxer?
Je dirais que j'ai un style assez atypique et que je parviens à garder mon sang froid peu importe les situations que je peux rencontrer sur le ring. Et c'est ça qui me permet de gagner mes combats.
T'es un showman?
Hein?
T'es un showman ou pas sur le ring?
En fait, j'ai cette réputation, mais je fais pas ça exprès. C'est vraiment quand je combats, je prends vraiment plaisir sur le ring. C'est
après, un peu trash talk sur le ring ou pas?
Non, pas trash talk, mais ça m'arrive de sourire, de rigoler, de parler même des fois. Mais c'est pas méchant. Ouais. C'est vraiment parce que
arrête-toi la plume dans le jeu. ne fais pas ça. Par contre, je voulais poser une question. Ah oui, tu boxes en gaucher. Ça peut être un avantage, mais c'est quand même dangereux. C'est aussi un inconvénient par rapport aux droitiers. Ça peut être un inconvénient pour les droitiers, mais un inconvénient pour toi. Tu apprends à boxer en droitier.
Ça m'arrive de changer de garde de brefs moments, mais. C'est vrai que ça peut être un danger, tantôt pour les droitiers que pour les gauchers, mais comme on a l'habitude, on essaie de bien visualiser l'angle mort, on va dire, pour éviter
de pas tourner du mauvais côté, tout ça, pour pas prendre à la droite.
Il y aura Erling César, vice-champion du monde de boxe olympique à Liverpool en moins de 80 kilos, avec toute une carrière devant lui, puisque tu as 21 ans.
Merci. Futur champion olympique.
On te le souhaite, en tout cas, comme dit.
N'oublie pas ta médaille.
Elle est là. Oui.
Bravo.
Il y aura Erling César, c'est la boxe dans le Super Moscato Show. Merci encore d'être venu.
Merci.
Allez, on revient tout de suite sur RMC avec le journal moyen. C'est le Super Moscato Show.
RMC jusqu'à 18h,
le meilleur du Super Moscato Show. RMC jusqu'à 18h, le meilleur du Super Moscato Show.
Pierre Dorian, Adrien Aigouin.
Le meilleur du Super Moscato Show, il est 15h45, c'est l'heure du journal moyen sur RMC.
La première édition, l'actu, la culture, les médias, on part sur la Lune dans un instant, c'est un voyage sympa. Une radio concurrente nous offre une Frédéric Pouillet, c'est assez mythique. Il est fier, Fred, il est content.
Il est content, oui.
Et c'est sa marque, hein. Et puis on va parler bar chocolaté, parce que Denis adore les barres de chocolat. Devant la télé le soir, crac, 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 crac.
Ah, je connais le chocolat. Il y en a un autre aussi qui aime bien les barres de chocolat.
Non, Vincent, mentalement, il est plus fort que Denis sur le grignotage.
Attention, les craquages sont. Une tablette de chocolat, il l'avale.
Qu'est-ce qui est moins bon pour le corps? Manger un caprice des dieux à 22h ou un Kit Kat?
Oh, le mieux, c'est les deux en même temps. Tu trempes le Kit Kat dans le camembert. Hein. Vous écoutez RMC, c'est le 2598e journal moyen de l'histoire du Super Moscato Show.
En direct de la rédaction d'RMC, toutes les infos que vous n'avez pas entendues sont dans le journal moyen. Première édition.
Alors, on commence le journal moyen avec nos concurrents, qu'on adore, on les salue. Ce midi, nos collègues de France Info ont rendu hommage à Frédéric Pouillet, notre producteur. Ils ont fait ce qu'on appelle une Fred Pouillet dans le métier. Vous allez avoir quelques frissons, mettez-vous à la place de la présentatrice. Ils sont à ce moment-là sur un sujet sérieux de journaliste, hein, avec un journaliste sur les détroits d'Hormuz, Vincent. Sujet sérieux, c'est la guerre. Et ensuite, derrière le sujet, derrière le reportage, la présentatrice doit enchaîner en accueillant un invité, un spécialiste du Moyen-Orient. Une spécialiste du Moyen-Orient. Il est midi 15 sur France Info et on a des frissons.
Une fois le conflit terminé, d'où l'idée d'organiser ensuite une conférence internationale sur le sujet de la sécurité du détroit d'Hormuz.
Et j'accueille notre invité. Bonjour Dorothée Schmidt.
C'est Lucille Schmidt, mais...
Lucille Schmidt, normalement nous essayons de joindre Dorothée Schmidt qui dirige le programme Turquie-Moyen-Orient au sein de l'IFRI, ce n'est pas vous?
Non, c'est. On a une erreur d'inviter Lucille Schmitt, qu'on voulait appeler d'ailleurs. On voulait vous appeler hier pour parler effectivement transition énergétique et décarbonation. Hier, je ne sais pas si on va pouvoir appeler Dorothée Schmitt. On va essayer de démêler tout ça. Pardonnez-moi, Lucille Schmitt. Pardonnez-nous. Effectivement, il y a eu une erreur de numéro de téléphone. Ça arrive et nous sommes en direct. Le temps de démêler tout ça, je vous emmène au Qatar, où le plus grand complexe d'exportation de GNL au monde est à l'arrêt depuis près d'un mois.
On n'aura pas retrouvé Madame Schmitt. C'est incroyable le malaise.
C'est fou. Dommage, c'est qu'elle la coupe parce qu'elle
allait dire
je peux vous le faire comme
ça. Oui. Je suis calé sur Hormuz, il n'y a pas de souci. C'est dingue. Wow. C'est le même nom de famille que l'invité qui était calé la veille sur un sujet.
C'est magnifique, mais c'est quand même en dessous de Loïc Perron.
Perron, c'est
pas ça.
Non,
ça n'a
rien à voir.
C'est en dessous, parce que c'est pas le même nom. C'est
une famille qui les sauve. Pour les nouveaux auditeurs ou les plus jeunes qui nous écoutent, pourquoi on dit que c'est une Frédéric Pouillet? Nous sommes pendant le Covid, et nous pendant le Covid on était là, Vincent, parce que on avait envie d'être là pour les gens. Oui. En 2020, il y a 6 ans déjà, on est censé accueillir Mathieu Bastaro en direct, calé par Frédéric Pouillet, c'est lui qui organise le truc mal, mais il organise. Écoutez, on est censé accueillir Mathieu Bastaro, c'est parti, c'est en direct il y a 6 ans dans le Moscato Show.
Vincent, deux cris du cœur pour le prix d'un. On est en direct de New York avec ton chouchou Mathieu Bastaro.
Oh, Mathieu, il est là. Mathieu, comment ça va, Mathieu?
Ça va.
Ah, il a le même téléphone que Esteban, j'ai l'impression.
Tu imites bien Mathieu Bastaro, Denis.
Ça va, bonjour.
Alors, en attendant, Mathieu, est-ce que M. Mitterrand pourrait répondre à M. Sarkozy tout à l'heure?
Ah, merde.
Vas-y.
Vous merdez avec ça. Et Mathieu est là.
Salut, Mathieu. Mathieu.
Vous demandez Mathieu, mais c'est Loïc, les enfants.
Ah, Loïc c'est Loïc Perron, bravo.
Voilà, merci beaucoup, merci la vie, merci Frédéric Pouillet. Et Loïc Perron, grand professionnel, Loïc a dit bah on fait l'interview, il n'y a pas de souci.
Non, mais surtout, j'imagine qu'en coulisses, vu qu'il ne répondait pas, Fred devait dire c'est à toi, t'es en ligne, tu peux répondre.
C'est exactement ce qui s'est passé. Entre la première, il était déjà à l'antenne, Loïc Perron. Donc là, il ne répond pas. Donc Fred reprend le téléphone et lui redit allô Mathieu, t'es en ligne.
C'est pas Mathieu Bastaro, les enfants.
Aïe, bon, allez, sans transition, on prend. Donc, France Info, faut relever encore le niveau, pas au niveau du Moscato Show.
Ouais.
On prend la fusée, Vincent, direction l'espace. Space.
Houston, we have a problem.
Do you think?
Houston, we have a problem.
Alors, sur quels critères, à partir de quel moment dans la vie, on peut se lever le matin, avant le petit déj, avant la douche, et se dire, tu te regardes dans le miroir, tu fais, je suis une énorme star. À partir de quel moment? Moi, je pense.
Ça fait 10 ans.
Moi, ça y est, j'ai un critère. Moi, je pense que c'est moi, je pense que c'est quand la NASA te contacte ton agent et te dit, tu vas participer au lancement d'une fusée sur la Lune. En Mondovision. Moi, je pense que là, tu peux te dire que t'es une star. C'est ce qui est arrivé à Victor Wembanyama, notre star du basket, star de la NBA. Il fait partie des stars affichées par la NASA avant le lancement de la mission Artemis 2 vers la Lune. L'immense fusée blanche et orange, on l'a vu décoller cette nuit, un moment incroyable, Space Launch System, Vincent. Eh bien, la NASA avait choisi des stars pour publier des vidéos d'encouragement aux 4 astronautes qui se sont envolés. Eh bien, parmi les stars, il y avait Scarlett Johansson, c'est pas mal. Il y avait Ryan Gosling, c'est pas mal. Et donc, notre Français, Victor Wembanyama, c'est un passionné d'astronomie et d'espace. Oui. C'est pas du fake, il adore ça. Il arrête pas de lire des choses là-dessus, des bouquins là-dessus.
Con, gamin,
Écoutez son message. Voilà, Victor Wembanyama, le monde entier l'a vu encourager les astronautes qui vont vers la Lune.
Hey, I'm Victor Wembanyama, and I play basketball in the NBA. But I'm not only interested in shooting hoops.
J'adore marquer des paniers, mais je m'intéresse aussi aux étoiles filantes, à la matière noire et à tous les types de phénomènes astronomiques.
And to the Artemis 2 astronauts who are shooting for the moon, I wish them good luck.
Aux fantastiques astronautes qui vont aller sur la Lune, je vous souhaite bonne chance et bon voyage. Bravo Victor, c'est la classe.
Mais c'est bien ce qui me semblait. Il s'intéresse à ces
trucs-là. Oui. Il adore ça. La Lune, il va bientôt la toucher, lui, bientôt.
Il a oublié d'être nul dans la ville, non? C'est pas mal quand même.
Lui va se sentir seul des fois dans le basket américain, je te le dis.
Pourquoi tu sais qu'il y a l'année dernière, quand il arrive au All-Star Game, et lui, il lit des livres en fait. À 21h, il éteint son téléphone et il lit des livres. Il arrive dans le vestiaire du All-Star Game, qui est quand même un peu un show, un peu détente, ouais, avec un bouquin à la main pour lire un bouquin. Avant, et Nikola Jokic lui dit: mais qu'est-ce que tu fais avec ton bouquin? Tout le monde s'est moqué de lui avec son bouquin.
Il doit se sentir seul, Vincent, t'as raison.
Toi, tu lisais Picsou, toi, quand même.
Non, l'équipe magazine.
En fait, t'es dur parce que moi, j'ai vu quand même avec TF1, j'ai vu comment ça s'appelle en Guyane, j'ai vu le lancement de
Kourou.
Ah, la première compagnie. Quand même. Ah, oui. L'émission de télé, télé-réalité, la première compagnie.
Ouais,
mais la NASA t'a pas appelé pour.
C'est quand même un lancement de fusée, c'est bien.
C'est génial.
C'est la NASA, nous on est des pipes.
Non, mais la NASA t'a pas appelé pour faire un message aux astronautes.
Ils ont essayé, Castaldi, si. Mais la tête rentrait pas dans la fusée. Si.
On a mis des luttes. On a jeté Jean Roucas et Castaldi, on les a jetés dans les réacteurs.
J'ai un magnifique sondage à vous proposer, ça fait des jours que je vous le proposais. Sondage de fou sur Riolo Daniel, dans Estelle Midi. Jingle.
J'en ai rien à foutre de votre monde de truands, tu m'emmerdes maintenant. Ce sont tous des guignols, c'est tous des tocards.
Je pense que j'ai pas suivi en détail, mais il y a dû se passer quelque chose chez Estelle avec Daniel Riolo. Ça fait des jours, plusieurs jours, qu'ils ont mis en avant sur leur compte Twitter, ça, c'est tout en haut, un sondage sur Daniel Riolo. Je vous le propose, vous me répondez oui ou non, le sondage est incroyable. Daniel Riolo est-il agaçant? Oui, non. C'est incroyable, ça sort de nulle part, j'adore. Mais Stephen, tu le connais bien dans l'intimité,
toi. La semaine dernière, non. Il s'est pris la tête avec je sais plus qui, dans un autre membre de l'équipe.
Chez Estelle?
Ouais.
Oui. Agaçant ou pas, Pierrot, Daniel?
Oui, il est très agaçant. Denis. Quand tu l'écoutes sur les avis foot, il t'agace.
Très agaçant.
Je l'aime bien parce que je pense pas avec lui, mais ça doit être un pénible. Ouais.
Et toi, Stephen, tu le connais un peu, on ne dévoile pas de secret, tu es très ami avec lui.
Pas agaçant.
Il y a une différence entre Daniel de l'antenne et l'antenne.
Oui,
et je peux vous dire, quand t'es reçu chez Daniel, t'es très bien reçu.
Quel cuisinier.
Non, mais surtout, il est très sympa, Daniel.
Bah oui.
Par contre, à l'antenne, il est très agaçant.
Il est très clivant. Il y en a un qui est aussi comme ça, c'est Cosini. Ils ont un peu
Cosini,
le même truc.
Cosini.
T'as envie de les étrangler.
Oui, c'est après, vrai.
Non, mais après, ils sont brillants. Non, mais après, ils sont brillantissimes. Hein. Les deux, je les trouve super. Hein. Mais ouais, c'est vrai que à bosser avec eux tous les jours, ça doit être une
chose. Et hier, Antoine Camboiré était là dans la sphère. Oui. Et tu sens que Daniel a un petit peu agacé parfois Antoine Camboiré et qui lui a dit hier, les yeux dans les yeux.
C'était sympa d'ailleurs.
Daniel, il doute de rien. Daniel, rappelez-vous, il était persuadé de pouvoir faire un entraînement à Lyon. Il doute de rien, Daniel. Il pense que. Ouais, c'est ça qui fait sa force. C'est qu'il pense qu'il a la légitimité, qu'il pourrait faire des jeux, des trucs comme ça, ramener quelque chose à l'équipe.
Les invités, ça peut être traumatisant. Pyro, il t'est arrivé la même chose, hein?
Ah non, mais encore pire.
Pendant les JO de Paris en 2024.
Parce que je m'en suis rendu compte au bout de 2 minutes ou 3 minutes.
Mais à qui je parle?
Je parlais à une personne et je pensais parler à une autre.
Tu pensais parler à
un judoka.
En fait, tu parlais à un escrimeur. Ouais, c'était magnifique.
C'est la magie des JO.
On vous le rediffusera, ça, tiens. Juste après les infos de 16h, le rugby avec un taulier du 15 de France. On s'était posé la question en plein tournoi. Thomas Ramos est-il le vrai patron des Bleus?
Et puis, on revivra un peu de la saison de Ligue des Champions du Paris Saint-Germain, évidemment. À tout de suite.
RMC jusqu'à 18h.
Le meilleur du Super Moscato Show.